enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Merci Benjamin, merci à tous ces musiciens, tous ces artistes qui, avec leur talent, nous bénissent ainsi semaine après semaine. Ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans la parole de Dieu au livre de l'Exode. Exode chapitre 18. Nous allons continuer avec notre série à la découverte des noms de Dieu. En ce dimanche, 16e anniversaire, toujours émouvant pour moi. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran de nos premières réunions il y a 16 ans, les premières salles que nous avions, les différents locaux que nous avions au tout début. Et c'est toujours émouvant pour moi. Il y a une expression en anglais, on utilise l'expression « mixed emotions », les sentiments partagés. Et c'est ce qui est dans mon cœur ce matin à plusieurs égards, sentiments de profonde reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait. Grande reconnaissance, mais en même temps, sentiment de grande recherche, de dire « Seigneur, la prochaine étape va être encore plus glorieuse ». Sentiment d'accomplissement, il faut s'arrêter et dire « Seigneur, il y a quelque chose qui a été accompli », mais encore plus fort, sentiment d'anticipation de ce que Dieu va faire, de ce qu'on va vivre ensemble dans les prochaines années. Sentiment de victoire, il y a eu des victoires depuis 16 ans, mais surtout sentiment de vision. Un cœur qui brûle de vision dans les prochaines semaines, de semaine en semaine, on va ouvrir la vision pour les prochaines années, ce que nous allons vivre ensemble. Et lorsque je regarde, si on remet la photo, la diapo 2, nos commencements, c'est un sentiment vraiment de tellement de reconnaissance parce que de chemin parcouru. Il y a beaucoup d'entre vous qui vous êtes joints en chemin, mais il faut que vous compreniez que les débuts étaient extrêmement humbles. Si on a bâti un peu quelque chose maintenant, on a commencé avec rien. Et souvent maintenant, lorsque nous implantons les églises, on aide à implanter des églises. J'ai des jeunes amis pasteurs que nous avons formés qui nous disent « Oh, il me manque telle ressource ». Mais je visite les églises ACF et je trouve qu'ils sont mieux équipés, mieux. Ils ont tellement comparé à ce que nous avions. On a commencé dans des petits locaux et vous savez, même pour avoir un petit local de commission scolaire avec un toit bas et la place pour quelques chaises, c'était déjà une grande bataille. Lorsqu'on a eu à cœur le groupe de ce relancement de l'Église de Nouvelle Vie à Longueuil à l'été de 1993, on s'était donné quelques mois pour trouver un local et les semaines passaient, on allait visiter, on n'avait pas de budget, on ne savait même pas combien de personnes seraient là. On avait un agent d'immeuble qui était avec nous au fil des années par la suite, mais il nous faisait visiter des locaux. C'était tellement décourageant. Ils nous montraient des locaux qu'on n'avait pas les moyens d'avoir, mais qui étaient dégoûtants. Ils nous montraient des places complètement. Je me souviens une fois, ils nous avaient amenés dans un parc industriel à Longueuil, dans un endroit qui était l'arrière, une porte arrière, et c'était, en bon québécois, une cour à scrap. Il y avait une cour à scrap, puis il y avait un chien de cour à scrap. Si vous n'avez jamais vu un chien de cour à scrap, c'est les chiens, je ne sais pas où ils les entraînent, mais particulièrement méchants, de mauvaise humeur, féroces. Et le chien de cour à scrap avait une chaîne, était au bout de sa chaîne, l'écume à la bouche, les crocs sortis, et il était là sur le bord d'une porte, et l'agent d'immeuble dit « Voici, ça serait la porte d'entrée de l'église. » Alors, il y avait... Puis après, il nous dit le prix et c'était complètement hors de prix pour nous. Et lorsqu'on a vu le petit local, la commission scolaire, on s'est mis à discuter avec la commission scolaire à l'époque. Et eux, il y avait une négociation qui a pris place. Et ils nous ont dit, bon, mais écoutez, nous, on vous demande, le prix final, c'est 10 $ du pied carré pour louer ça. Et on a notre réunion mercredi dans quelques semaines. Avez-vous une offre sérieuse à présenter? Puis on avait dit, bien écoutez, est-ce que vous considériez qu'on vous présente peut-être une offre un petit peu en dessous de ça? Oui, puis je me souviens de ses paroles, M. Leblanc, à l'époque, paroles célèbres, M. Leblanc avait dit, oui, mais présente-nous pas quelque chose de ridicule. Là. On avait dit, mais non, on est des gens sérieux. Et lorsque j'avais rencontré le comité d'administration, Luc Poirier et d'autres à l'époque, c'était hallucinant, mais on savait même pas combien d'argent on était pour avoir, mais on se disait, bien, le mieux qu'on pourrait faire, il avait parlé de 10 $ du pied carré, ça équivalait à peu près à 2,80 $ du pied carré, chauffé, climatisé, éclairé et déneigé. Alors ça, c'est l'offre que nous, on a fait. On est allé porter l'offre avec plusieurs paragraphes, puis l'offre a quelque part cachée dedans. Et puis on est allé se cacher, littéralement, on est allé se cacher en forêt et prier et jeûner. Et on priait, bon Dieu, Seigneur, aide-nous. Et on ne sait pas comment tout ça a pris place, mais d'une manière miraculeuse, ils ont accepté notre offre. Et c'est là qu'on a commencé. On avait une semaine pour rénover. On est rentré, on était tout excité. Et il y en a qui pensent peut-être aujourd'hui qu'on est assez bien organisé, on a certains équipements. Mais c'est hallucinant qu'on faisait tout dans les jours avant rénovation et tout ça se faisait. Puis on avait juste quelques jours pour rentrer dans le local avant le 8 août. Et on pensait qu'on avait quelqu'un qui nous procurait des chaises et puis ça avait été annulé ou ça avait été, personne n'avait changé d'idée. Et on s'est retrouvé à quelques jours avant que ça commence et nous étions pour bâtir plein de visions, une église pour aujourd'hui. Mais le vendredi avant qu'elle commence, l'église pour aujourd'hui n'avait pas de chaises. Et il y a un gars de l'église du petit groupe qui a dit hey, « Moi, je vais vous en trouver des chaises, j'ai 100 chaises disponibles, on vous amenez ça. » J'ai pas posé la question où il était pour les prendre. Ils vont arriver le dimanche, puis il y avait 100 chaises, puis le samedi soir, lorsqu'il a installé ses chaises, je dis « Hey, t'es pris où tes chaises? » Il dit « Mon père, il y a un club. » Alors, c'était un club, vous donnerai pas les détails, mais c'était un club mal famé, où il y a des gens qui dansent et c'est pas du ballet. Il y avait un club mal famé. Il est arrivé avec les 100 chaises, alors on a lavé chaque chaise, purifier, prier sur chaque chaise. Et avec des chaises empruntées dans un club et un plafond bas, ainsi, et un système de son emprunté, ainsi a commencé l'Église Nouvelle Vie. Et nous sommes ici plus de 3000 ce matin avec une Église qui a un impact dans les nations. Quelqu'un devrait applaudir la grâce de Dieu. Alors que ce matin, Je me tiens devant vous et je vous dis, regardons ensemble dans la parole de Dieu au livre de Exode, chapitre 17. Je me souviens de ce premier dimanche où à quelques dizaines de personnes qui sont là, on a dit, ouvrons ensemble la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons regarder, alors que nous découvrons les noms de Dieu, à une vignette de l'Ancien Testament où Dieu est révélé comme le Dieu de la victoire. La parole de Dieu, l'Éternel, l'appelle l'Éternel, Jéhovah Nissi, qui veut dire le Seigneur ma bannière, le Seigneur ma victoire, le Seigneur mon étendard qui me donne victoire. Je vais l'expliquer dans un instant. Et il peut y avoir plusieurs milliers de personnes qui sont ici maintenant. Plusieurs centaines de milliers de personnes qui écoutent ces messages et qui sont touchées par ces messages, par le truchement de la radio et de l'Internet et des ministères de cette Église qui sillonnent le monde. Et on a un collège biblique qui forme des centaines et une œuvre humanitaire qui touche des milliers. Mais notre cœur est intact. Nous sommes reconnaissants pour hier, mais il y a une soif en nous. Nous sommes devant le même Dieu qui nous a donné victoire. Et nous disons, Seigneur, tes victoires jusqu'à aujourd'hui ont été grandes, mais celles de demain vont l'être encore plus. Et que ceux qui ont... Combien d'entre vous, vous êtes reconnaissants, mais vous n'êtes pas rassasiés. Et vous avez encore soif de ce que le Seigneur peut faire et va faire. Exode chapitre 17, où Dieu s'est révélé comme le Seigneur, la victoire, la bannière, l'étendard. Commençons au verset 8, nous lisons et le texte va apparaître à l'écran si vous n'avez pas de Bible. Amalek vint combattre contre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre pour Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées, elles étaient alourdies. Et ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek du dessous des cieux. Et Moïse bâtit donc là un autel et l'appela du nom de Jéhovah Nissi, de l'Éternel ma bannière, l'Éternel mon étendard, l'Éternel ma victoire. Et il dit, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura une guerre. Il y aura une guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est approprié d'une certaine façon que nous regardons à cette vignette, cette facette de Dieu en cette fin de semaine, si tristement approprié, mais en cette fin de semaine où il y a commémoration des tragiques et horribles événements du 11 septembre. parce qu'il y a un grand parallèle entre ces événements récents dans notre histoire moderne et notre texte biblique. En effet, dans le texte que nous venons de lire, lorsque vous lisez les mots « Amalek vint combattre à Rephidim », nous avons une chronologie où nous sommes quelques semaines seulement après la dernière fois que nous étions ensemble, nous avons regardé alors qu'ils étaient à Mara, le Dieu qui guérit. Et là, quelques semaines ont passé. Ils sont en route, en voie. Ils sont 2 millions de personnes, un peuple en exode, en mouvement à travers le désert. Alors qu'ils subissent, alors qu'ils sont attaqués, il y a une attaque soudaine. Il y a une attaque violente. Il y a une attaque terroriste. Il y a une attaque où des innocents sont abattus. Et comme nous avons pleuré ensemble depuis ces événements qui ont non seulement frappé la ville de New York, parce que en ce jour du 11 septembre et depuis, pendant un moment, nous étions tous New-Yorkais. Nous étions tous attaqués. Et alors qu'ils sont, nous regardons notre texte, il y a les Amalécites, qui sont des descendants d'Ésaü dans les Écritures, et ils vivaient dans le désert. Ce sont des pirates, des terroristes, des pilleurs, des meurtriers qui font de longues distances pour venir attaquer et qui attaquent cruellement. Ils attaquent sournoisement les plus faibles. Les sans-défense, ceux qui sont en arrière, les jeunes et les personnes âgées parmi le peuple de plus de 2 millions d'habitants. Alors qu'il y a des gens qui suivent moins, des gens qui sont faibles, des gens qui sont sans défense, des gens qui sont un peu isolés, des gens qui sont marginalisés, ils commencent à disparaître. Ils commencent à se faire voler, à se faire assassiner, à se faire kidnapper. Et on ne sait pas combien de temps ça prend avant que Moïse puisse se rendre compte qu'il y a un combat qui prend place, que nous avons été victimes d'attaques, que nous sommes victimes d'attaques. Et alors que Moïse aurait pu se fermer les yeux, devenir un égocentrique spirituel ou un fataliste, eh bien, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des gens, qu'on perdait. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors qu'il aurait pu devenir un égocentrique spirituel ou un fataliste, il décide de combattre. Il décide de défendre. Et il décide de monter vers Dieu et d'aller à la défense de ceux qui sont sans défense. Les oubliés parmi les oubliés. Et il comprend que Dieu, ma victoire, ils avaient eu de grandes victoires dans leur passé, mais Dieu, ma victoire, Dieu, ma bannière, n'est pas une bannière d'exploit passé seulement, mais doit toujours être une bannière d'engagement présent. Et lorsque vous lisez le mot bannière en français, ça évoque une image de tissu, d'une espèce de bannière à une manifestation, quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas la pensée dans l'Ancien Testament. C'est plutôt une scène de guerre. Si vous avez vu des films comme Braveheart ou des films comme Le Dernier Samouraï, où tu as des guerres de terrain comme ça, tu vois les clans, tu vois les dirigeants qui ont ce qu'on appellerait maintenant un étendard, une bannière. C'était un drapeau, c'était une espèce de perche, de pieu, de poteau qui était là. Et il y avait plusieurs significations. Alors que le porteur du drapeau, le porteur de la bannière, le porteur de l'étendard était là, ça signifiait beaucoup de choses. Ça donnait une direction. Voici où on s'en va dans le combat. Ça donnait un sens de direction, un sens aussi d'appartenance. Les familles avaient chacun leur bannière. Voici ce à quoi j'appartiens. Je suis pas seul là-dedans. Je ne suis pas une entité en seulement à moi-même. J'ai mon individualité, mais j'appartiens à quelque chose. Je suis sous une bannière. C'était aussi un signe de grande célébration. Ça voulait dire Dieu a donné la victoire, et vous avez vu des scènes de films où à la fin, après qu'il y a eu tous les combats, il y a eu la fumée, il y a tout eu à un moment donné, lorsqu'on a gagné, monte sur la montagne, lève la bannière, et ça voulait dire célébration. Et c'est ce que nous faisons ce matin. On s'arrête un instant et nous levons une bannière de reconnaissance et nous disons, Seigneur, merci pour 16 ans ensemble, merci pour 16 ans de victoire. On l'a fait en tant qu'Église, mais pouvez-vous individuellement, pour vos propres vies, vous arrêter un moment ce matin et applaudir et dire, Seigneur, pour ce que tu as fait dans ma vie, je lève la bannière et je te dis merci ce matin. Nissi, du mot hébreu nek, qui veut dire bannière, étendard, signe, drapeau, signal. La diapo 8, c'était aussi un signal. Lorsque la bannière était levée, ça indiquait, on y va, on peut aller au combat. Ça indiquait aussi, parfois, vous avez des moments dans l'Ancien Testament où la bannière est levée et ceux qui avaient eu peur jusqu'à ce jour-là, ceux qui avaient été apeurés, ceux qui avaient cessé de combattre, ceux qui se cachaient derrière les rochers, voient lever, derrière le rocher d'incrédulité et de peur, ils voient une bannière se lever. Ça leur donne courage, ça les galvanise et ils vont au combat. Et dans ce sens-là, l'Église Nouvelle Vie est une bannière. L'Église Nouvelle Vie est un signal. En 1993 jusqu'à aujourd'hui, cette Église a lancé un signal à la francophonie, a lancé un signal au monde évangélique. Il y a un signal qui était là. Il y a un signal que les années de disette, les années de sécheresse, les années d'impossibilité où ce que Dieu faisait ailleurs était impossible au Québec, il y a un signal que ces années-là sont terminées et Jéhovah est notre bannière ici dans la province de Québec. Un signal. Un signal que ce qui était impossible jusqu'à aujourd'hui devient possible et tu peux le faire toi aussi. Et maintenant, toute une lignée de jeunes implanteurs d'église disent oui, oui, c'est possible, ça peut arriver pour nous aussi. Un signal qui est possible d'aller dans notre communauté, de nous impliquer et de gagner du terrain, de toucher des gens, de bâtir des œuvres humanitaires qui sont faites et qui viennent tangiblement en aide à des milliers à chaque semaine. Un signal qui est possible d'être 16 ans jusqu'à aujourd'hui dans l'unité, que des Québécois, des Québécoises, de toute nationalité, tout arrière-plan, d'une variété d'arrière-plan dénominationnels peuvent venir ensemble dans l'amour, la maturité, le respect et le pardon et vivre 16 belles années d'unité ensemble. Quelqu'un devrait dire oui. Un signal que la femme peut prendre sa place dans l'Église et peut s'impliquer selon le modèle des Écritures. Un signal que des ministères variés et différents qui n'avaient aucune place avant peuvent maintenant être reconnus. Un signal qu'il est possible de bâtir quelque chose et ça ne sera pas juste un feu de paille pendant un an ou deux qui va s'éteindre par la suite, mais que la flamme grandit d'année en année et le fruit grandit d'année en année. Et un signal qu'avec Dieu, peu importe comment c'était grand hier, il peut encore, Jéhovah ici, faire encore plus demain. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, nous lançons un signal à notre province? Jéhovah ici, le Seigneur, notre bannière. Le psaume 20 dit, nous crions de joie. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Il raconte un peu notre témoignage de 16 ans dans le psaume 20 lorsqu'il dit, nous, c'est au nom de l'Éternel que nous avons fait appel et par lui, nous sommes debout et nous tenons ferme. Le psaume parle de la bannière, il dit, psaume 60, « Ô Dieu, c'est toi qui répares nos cassures quand nous chancelons. » 16 ans de travail, 16 ans de victoire, 16 ans d'accomplissement, mais 16 ans aussi de combat. 16 ans avec quelques meurtrissures en québécois, quelques pocs, quelques cassements, mais 16 ans sous la main restauratrice de Dieu, c'est toi qui nous répares quand nous chancelons, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Tu as donné à ceux qui te cherchent de se rassembler autour de la bannière. Dans les différents noms de Dieu que nous avons regardés jusqu'à maintenant, les noms de Dieu, le Seigneur très haut, le Seigneur tout-puissant, le Seigneur l'éternel, le Seigneur le refuge, le Seigneur qui te guérit. Nous avons regardé aux noms de Dieu qui ont un impact direct dans la vie du croyant, dans la vie d'une personne, personnellement. Mais ce matin, lorsque nous regardons à l'Éternel, le Seigneur qui est notre victoire, qui est notre bannière. Ce n'est pas seulement le nom de Dieu pour l'individu, pour la personne, pour le croyant. C'est le nom de Dieu qui nous appelle comme peuple, comme corps, comme communauté. Et c'est cette révélation extrêmement profonde que oui, nous avons un appel individuel, personnel. Chaque personne ici est appelée à des choses différentes. Et nous sommes là pour vous équiper pour l'accomplissement de l'appel de Dieu dans votre vie. Mais c'est aussi que nous avons un appel ensemble. Que nous sommes appelés, et c'est un principe de Dieu très, très important. Il y a certains ne comprenant pas ce principe qui pensent qu'ils peuvent. Moi, je suis à la poursuite de l'appel de Dieu pour ma vie et je me sers de l'Église. Y a-t-il une Église que je peux me servir pour mon accomplissement? Ou même, je vais être loin, je vais être isolé de l'Église. Moi, j'ai un appel, c'est juste moi et Dieu. Mais Dieu dit, alors voici le secret. Alors que des personnes s'unissent ensemble et se mettent au service d'une cause commune, un appel de l'Église Nouvelle Vie ensemble, alors qu'ils servent une cause plus grande qu'eux-mêmes, c'est là que je vais accomplir l'appel de Dieu dans leur vie à eux. Il y a cet appel ensemble. Et c'est pourquoi la bannière nous rassemble. La bannière nous rassemble. Et la bannière, non seulement nous rassemble, mais fait de nous littéralement une famille. Fait de nous une famille. Et le psaume 75 nous dit que ce nom de l'Éternel, la victoire, l'Éternel, la bannière, ce n'est pas seulement un concept dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est une réalité qui est proche de nous aujourd'hui. Nous te célébrons, oh Dieu. Nous te célébrons en racontant tes actions merveilleuses et tout ce que tu as fait, car ton nom est proche. L'Éternel, notre bannière, l'Éternel, notre victoire, est proche de nous et a été proche de nous depuis 16 ans. Et le texte dit, le Seigneur dit à Moïse, tu vas prendre, je vous donne une victoire ici à Amalek. Mais dans cette victoire, il y a un rappel de comment, comment j'ai été l'Éternel, votre victoire, et comment je pourrais en continuer à l'être. Il y a des clés qui sont là dans le texte. C'est pourquoi il a dit, fais un autel du souvenir, bâtis quelque chose, il faut. Et dans le texte hébreu, lorsque vous dites, amène aux oreilles du peuple ce qui s'est passé ici, ce que le texte qu'on a lu, littéralement dans l'hébreu, c'est remplis les oreilles du peuple. C'est comme si Dieu nous disait à nous ce matin, Église Nouvelle Vie, vous avez eu des victoires, j'ai été l'Éternel, votre bannière, j'ai été Jéhovah ici, mais il faut que tu t'arrêtes un instant et que tu te souviennes qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui a causé cette victoire, ce qui rend cette victoire possible. Comment on passe du rêve à la réalité? Comment on passe de l'espoir à un accomplissement? Comment on passe seulement de parler de réveil à vivre le réveil? Comment on passe de parler de grands exploits à bâtir quelque chose à la gloire de Dieu? Et là, il a été et il sera Jéhovah ici, la diapo 12. Le texte nous suggère qu'il a été et il sera Jéhovah ici. Lorsque nous dépendons de Dieu dans la prière, lorsque nous découvrons un principe qui change tout, lorsque nous devenons passionnés pour le combat de Dieu et lorsque nous décidons de prendre notre place dans la plus belle cause sur la terre. La première étape, et c'est totalement la pierre angulaire de l'Église Nouvelle Vie, c'est que nous allons, il a été notre victoire et il sera notre victoire lorsque nous dépendons de Dieu dans la prière. C'est un portrait hallucinant. Moïse est sur la montagne, il lève ses mains vers le ciel. Il monte, c'est une scène assez particulière. Il se fait attaquer dans la vallée et il dit aux serviteurs, vous allez aller, tout le monde va aller combattre. Mais Moïse monte sur la montagne et il monte haut. Et alors que ceux qui sont dans la vallée combattent, ils regardent, ils doivent se demander ce qu'il fait. Et Moïse est en haut et tend ses mains vers Dieu. Et la Bible nous dit, tant aussi longtemps que ses mains étaient tendues vers Dieu, signe de dépendance, signe de recherche de Dieu, signe de prière, tant aussi longtemps que ses mains étaient tendues vers Dieu, le peuple gagnait. Et lorsque ses mains ont commencé à baisser, l'ennemi gagnait. L'Église Nouvelle Vie a débuté littéralement dans le jeûne et la prière. Beaucoup de gens dans les cercles chrétiens parlent de jeûne et de prière, peu le font. Beaucoup de gens parlent que c'est par la prière, mais peu le font. Et c'est contre notre nature. Vous savez que Moïse était un homme avec des capacités de combat, même l'amenant à des moments horribles. Moïse était capable avait été capable de tuer un homme à main nue parce qu'il voyait quelqu'un, un de ses frères, être opprimé. Et ça l'avait envoyé dans le désert pendant des années. Lorsqu'il entend parler, les Amalécites viennent, ils attaquent nos faibles, ils attaquent les dames, ils attaquent les enfants, ils attaquent nos vieillards. Il y a quelque chose en lui qui dit, donnez-moi une fronde, quelqu'un, donnez-moi une arme, donnez-moi un gourdin, on va aller s'en occuper. Mais il y a un symbole, il y a un message qui est là, que c'est par alors que nous allons vers le Seigneur, alors que nous levons nos mains vers le ciel, dans le jeûne, dans la prière. C'est pourquoi depuis 16 ans, jeûne, prière, tous les débuts d'année, jeûne prolongé, réunion de prière chaque jour de la semaine, pasteur de la prière qui anime la prière, nuit de prière, les jeunes qui prient, les gens de tous les âges qui prient. C'est pourquoi on fait le 16e et dans deux jours on part, on continue à aller jeûner et prier parce que c'est lorsque nous dépendons de Dieu qu'on entre dans une dimension où le surnaturel devient possible et où dans la vallée, tant et aussi longtemps où nos mains vont être levées en dépendance de Dieu, c'est là que la victoire va prendre place dans la vallée. Jeûne et prière. Et non seulement prier pour nous-mêmes, prier pour nos familles, nos enfants, prier, mais ce cœur selon le cœur de Dieu qui prie pour d'autres. Ce cœur qui va et qui prie pour d'autres. C'est très émouvant pour moi lorsque je passe un vendredi soir à la jeunesse et que j'ai apporté la parole cet été aux jeunes et que je vois les jeunes de tous les âges avec leurs bras autour de leurs amis et de voir cet esprit de prier pour d'autres, prier pour les gens, de combattre pour des gens qui sont sans défense, de prier pour que le surnaturel prenne place. Lorsque vous lisez dans Ésaïe 57, c'est ainsi que parle le Très-Haut, la diapo 14. « Je demeure dans les lieux élevés, dans ma sainteté, mais je suis avec l'homme qui est brisé. » et qui vient à moi avec un cœur d'humilité, afin de ranimer ceux qui ont été opprimés et blessés, et de ramener ceux qu'on a tenus captifs. Dieu dit, je ne suis pas capable de résister. Moi, je suis là dans le ciel, mais je suis proche. Moi, tu veux savoir où je suis? Tu vas me trouver à un endroit où il y a quelqu'un, quelqu'un brisé, qui lève sa voix pour que j'intervienne, pour délivrer quelqu'un. C'est là que tu vas me trouver. Et c'est là que nous l'avons trouvé depuis 16 ans. Et Dieu, il y a une représentation magnifique dans Zacharie 3, lorsqu'il me fit voir celui qui se tenait pour le peuple. Celui qui revenait de la captivité avec un peuple souillé. Quelqu'un, un leader qui s'appelait Josué, qui revient. Il a toute une multitude de gens qui sont brisés autour de lui. Il était debout devant l'Éternel et l'ennemi, l'accusateur, le menteur était là pour accuser. Mais l'Éternel a dit, tais-toi, car ce peuple, c'est un peuple que j'ai choisi, diapo 16. N'est-ce pas un tison que j'ai moi-même arraché du feu? Et alors qu'ils étaient couverts de vêtements souillés, enlevez-leur leurs vêtements souillés, car je les couvrirai d'habits précieux. C'est le portrait de ce que nous faisons depuis 16 ans. les hommes et les femmes qui allons dans la présence de Dieu. Il y a les gens qui sont religieux, mais qui ne connaissent pas le cœur de Dieu depuis 2000 ans, peuvent avoir la pensée que Dieu est préoccupé, que Dieu a un regard seulement sur ceux qui sont bien, ceux qui mènent de bonnes vies, et qu'il a un dégoût pour ceux qui ont des difficultés. Vous savez, c'est ce qu'ils ont dit à Jésus lorsque Jésus était avec une femme qui avait une vie terrible, une femme avec un arrière-plan terrible et qui était une femme, une pécheresse dans les Écritures. Les pharisiens ont dit, s'il était le Fils de Dieu, on sait qu'il n'est pas le Fils de Dieu, parce que s'il était le Fils de Dieu, il saurait la vie de cette femme-là, puis il ne se tiendrait pas proche d'elle. Et Dieu dit, vous ne connaissez rien de moi. Si vous voulez savoir si c'est de Dieu, si vous voulez savoir si c'est le Fils de Dieu, vous allez savoir où je suis près de quelqu'un qui est essouillé. Je ne parle pas de souillure dans un terme physique, ou même, il y a quelque chose de magnifique à cette scène de personnes qui, Dieu dit, je les aime tellement que je les ai moi-même tirés du feu. Je les ai tirés comme un tison du feu, et par multitude, le premier dimanche, le 8 août à l'Église Nouvelle-Vie, lorsque on a fait un appel, il y a une personne qui a levé la main, et depuis, c'est des centaines, et depuis, c'est des milliers de personnes qui portaient un vêtement de douleur, un vêtement de peine, un vêtement de rejet, un vêtement où ils ont été abusés, un vêtement de découragement, un vêtement de déchirement, et Dieu dit, moi, je vais, si tu viens à moi, il y a quelqu'un qui prie, il y a quelqu'un qui lève sa voix pour toi, moi, je vais répondre, et alors, dans la vallée, il y a une victoire qui va venir, et alors j'enlève le vêtement d'abattement et je donne un vêtement de joie. J'enlève le vêtement de condamnation et je donne un vêtement de pardon. Je changerai ton deuil en allégresse et je te donnerai un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu. Littéralement, par la prière, alors que nous nous tenons sur la montagne, spirituellement, nous permettons à des gens de s'élever au-dessus de ce qui les détruisait. C'est fascinant lorsque nous lisons, il y a un poète de l'histoire américaine, William Cullen Bryant, qui a écrit plusieurs livres de poésie. Il a vécu 1700 jusqu'à à peu près 1860, je pense, 1880. Et en 1855, il a aussi écrit un livre d'histoire. Et c'est un livre d'histoire sur comment, au Massachusetts et aux États-Unis, la Nouvelle-Angleterre, New England, comment tous ces États se sont établis, comment les pionniers sont arrivés et comment ils ont bâti. Et il y a un chapitre hallucinant, parce que j'ai vu ça dans un article, j'ai commencé à faire rechercher, puis il y a un chapitre hallucinant qui s'appelle « Building Above the Snake Line ». Bâtir au-dessus de la ligne du serpent, la ligne des serpents. Et lorsque je me suis mis à étudier, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont bâti où c'était facile, dans les vallées, puis on a découvert que c'était infesté de serpents, mais aussi de plein d'autres choses. Et qu'après un certain temps, il était nécessaire pour protéger les gens. Il y avait même une distance, il y avait une hauteur qui était là. Ils bâtissaient au-delà de 300 mètres dans les montagnes. Bon, c'était plus difficile, le sol est plus aride, mais pour un fruit, pour une protection. Et c'est devenu une expression, c'était dans les journaux, c'était dans leur communication de l'époque. « You have to build above the snake line. » Il faut que tu bâtisses au-dessus de la ligne du serpent. Et c'est l'appel que nous avons. Nous montons devant Dieu en jeûne et en prière et en recherche de Dieu. Et alors que nous le faisons, nous permettons à des gens de s'élever au-dessus de ce qui les menaçait, de s'élever au-dessus de ce qui les détruisait, de s'élever au-dessus de ce qui menaçait leur vie et celle des autres, et nous écrasons littéralement la tête du serpent alors que le Seigneur nous donne la victoire. C'est Dieu dit littéralement, tant aussi longtemps que mes mains, que vos mains seront levées en jeûne et en prière. Et attention, nouvelle vie. Ne pas devenir tellement occupé avec tous les programmes que tous les leaders, l'Église et les leaders, sont tellement occupés qu'ils n'ont plus le temps de jeûner et de prier. Que le jeûne et la prière deviennent quelque chose qu'on pense qui est superflu ou qu'on peut se passer. Cette Église est née et a été bâtie alors que les mains étaient levées sur la montagne. Et si nos mains baissent, l'ennemi va gagner du terrain. Mais je déclare, quand je serai, et je suis ici avec vous à long terme, pasteur de cette Église, nos mains vont demeurer levées devant Dieu et Dieu va continuer à nous donner la victoire. Et à ce moment-là, quelle que soit l'ampleur de ce qui est là, il n'y a pas de limite. Je le dirais de cette façon, c'est Dieu qui dit, si tu gardes tes mains levées, c'est moi qui vais signer vos chèques spirituellement. C'est moi qui vais signer les chèques. Vous savez, lorsque tu reçois un chèque, je vous pose la question, qu'est-ce qui est le plus important? Le montant ou le signataire? On est d'accord que c'est le signataire. Parce que ça n'a pas d'importance, le montant, c'est celui qui signe qui va déterminer si le montant, c'est sérieux ou c'est rigolo. Depuis quelques années, tous ceux d'entre vous qui avez un laptop, qui avez l'Internet, vous avez reçu des lettres de gens qui vous disent « Voici, tu as gagné un prix. Voici. » Et souvent, un prince qui nous écrit « Je suis le prince un tel. J'ai tel million de dollars dans une banque pour toi. Tu as juste à m'envoyer ton numéro de carte de crédit et je vais te donner le million. » Combien d'entre vous, vous avez reçu ce genre de lettre-là du prince? Est-ce que vous pouvez dire à la personne près de vous « Réponds jamais au prince. » Dites ça à quelqu'un près de vous. J'ai reçu une récemment. C'est une des plus sophistiquées que j'avais jamais vues. C'était payé à la 19. J'en ai fait une espèce de représentation parce que c'était un chèque. Il m'a envoyé par email un chèque. Puis c'était écrit un chèque à mon nom, 1 250 000 euros. Mais d'une certaine façon, j'aurais pu, ça aurait pu être comme ceci. J'ai ajouté certaines choses, là, mais banque ITD, imaginaire et toujours décevante. À l'ordre de Claude Houde, 1 250 000 euros, signé « Prince, si tu me crois, t'es fini ». Est-ce que vous me suivez? Ce qui est important, ce qui compte, ce n'est pas le montant. Et en 16 ans, il y a plein de fois, où on s'est retrouvé devant des choses tellement grosses, tellement grandes, tellement impossibles. Ce que ça prend semble tellement impossible. Dieu dit, garde tes mains levées. Garde tes mains levées. Les ressources sont illimitées. Ce n'est pas le montant qui compte. C'est moi qui signe les chèques ici. C'est moi qui est capable de répondre. Alors, je vous propose un autre chèque. C'est de la Banque du Ciel. C'est payé à l'ordre de chrétiens de l'Église Nouvelle Vie. Le montant, victoire, fidélité, témoignage, et c'est signé Jéhovah Nissi, le Seigneur ta victoire, le Seigneur ta bannière. Quelqu'un devrait dire oui. Il a été, il sera Jéhovah Nissi lorsque nous dépendons de Dieu dans la prière. Il a été, il sera Jéhovah Nissi lorsque nous découvrons un principe qui change tout. Le texte nous dit, peint une scène qui est hallucinante. Une scène où Moïse a ses bras levés, et alors qu'il a ses bras levés, il dépend de Dieu, le peuple gagne dans la vallée. La victoire est au peuple de Dieu, puis il y a des avancements, puis il est la bannière, il est l'initié, il est victoire, et il y a des cris de victoire, puis il y a un enthousiasme. Et lorsque les bras de Moïse commencent à baisser, c'est l'ennemi qui gagne du terrain dans la vallée. Comprenez bien le contexte. Le texte nous dit, juste tant qu'on entre dans cette histoire-là, immédiatement le verset précédent, ils étaient dans un lieu qu'on appelait Massa et Meriba. Et le mot Massa veut dire incrédulité, doute, tenter Dieu. Et le mot Meriba veut dire contestation, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, ils avaient tenté l'Éternel. Ils disaient tout le temps, l'Éternel est-il au milieu de nous ou ne l'est-il pas? C'est un contexte miroir de la condition dans laquelle nous avons débuté l'Église Nouvelle Vie. En 1993, avec déjà plusieurs années de ministère, et après avoir sillonné le Québec en entier, je pourrais vous dire que l'esprit de Meriba, l'esprit de Massa, les églises paralysées, par le doute, l'incrédulité, par la contestation et les divisions, paralysaient l'œuvre de Dieu. Des centaines d'églises partout dans le Québec, puis il y avait toutes sortes de clichés évangéliques québécois. Une église québécoise ne peut pas être unie, ne peut pas être ensemble. L'esprit de Massa et de Meriba, contestation en tout temps, et aussi sous la surface, de manière insidieuse, jamais dite ouvertement, mais soyons honnêtes un instant, un esprit d'incrédulité tellement fort. Savez-vous ce qu'ils ont dit? Le Seigneur est-il avec nous? Mais il ne l'est pas. L'esprit littéralement de Québécois et de Québécoises qui, pendant des décennies dans cette province, étaient prêts et croyaient pour les plus grands miracles partout ailleurs, mais étaient rendus maintenant avec tout un set de rationalisations que ce que Dieu fait là-bas, il ne peut pas le faire ici. Ici, ce n'est pas possible. Ici, on conteste. Ici, on se déchire. Ici, on vit dans cette on patauge dans des marécages puants de Meriba et de Massa. Et dans ce contexte-là, Dieu leur donne une image hallucinante. Mais les mains de Moïse, il y a une victoire dans la vallée. Et il regarde à Moïse sur la montagne, puis le voit. Et tout à coup, le peuple qui se bat dans la vallée voit les bras de Moïse être fatigué, représentant les limitations humaines. Et alors que ses bras baissent, le Seigneur dit à Aaron et Hur de venir le rejoindre, aller et tenir ses mains, un geste, un symbole d'unité, de rassemblement, un principe qui change tout. Et sur cette unité, l'Église qui est en train de perdre reprend la victoire. Vous n'avez pas l'air sûr, j'ai eu 3 amen et demi. Alors, j'aurais besoin d'aide. Ça va me prendre quelqu'un. Où est-ce qu'il est? Je vais demander à Moïse Loignon de venir me rejoindre pendant un instant. Je vais dire, Pasteur Jacques, ça me prend Luc, pourrait m'aider. Peut-être Pasteur Jacques Kendong aussi, si vous voulez venir. La Bible nous dit que Moïse a levé ses bras. Restez là un instant, les frères. Moïse a levé ses bras devant Dieu. Lève-les haut. Et qu'à tant et aussi longtemps que ses bras étaient levés, il y avait de la victoire dans la vallée. Si j'avais le temps, je m'arrêterais sur un instant, puis on verrait combien de temps Jacques peut toffer. Mais je n'ai pas le temps. Alors, la Bible nous dit qu'après un certain temps, vous l'asseyez à la maison, vous allez voir, c'est fatigant. les bras de Moïse furent fatigués. Et alors qu'ils baissèrent, quelque chose d'hallucinant. Écoutez-moi bien. Le peuple qui est dans la vallée ne comprend pas ce qui leur arrive. Parce qu'ils ont une promesse de Dieu, ils ont l'autorité, ils ont les mêmes armes qu'ils avaient. L'ennemi n'est pas plus fort, il n'est pas plus nombreux, il n'a pas reçu de renfort. Mais l'ennemi que j'étais en train de vaincre avant, l'ennemi que j'écrasais, l'ennemi qui était sous mes pieds commence à gagner du terrain sur moi. Et le Seigneur dit, maintenant, je vais vous donner un portrait. Vous qui n'arrêtez pas de passer de Massa à Meriba, de la contestation à la division, à l'incrédulité, à la contestation, à la division, à l'incrédulité, comme les églises au Québec qui se divisent de leur division. Je vais vous montrer un portrait si vous voulez savoir comment aller chercher la victoire et comment la garder, comment j'ai été l'Éternel ici, qui est votre bannière, et comment je peux continuer à l'être et multiplier la victoire. Je vais chercher Aaron et Hur. Venez. Et ils vont faire quelque chose devant vos yeux, vous puissiez le voir. Ils vont se tenir chacun sous un des bras de Moïse. Des personnes qui ne sont pas parfaites. Il y avait eu dans le passé des Écritures et dans le futur certains conflits entre Aaron et Hur. Ce n'étaient pas des hommes parfaits. Ils avaient à se pardonner. C'est pas des anges qui n'ont aucun sentiment et qui ne se déçoivent jamais et qui n'ont jamais. Mais c'est des gens qui ont compris un principe spirituel. Suivez-moi bien. Qu'il n'y a pas d'autorité ou de victoire à moins que nous soyons en unité. Un mettra 1000 en fuite, mais 2 mettront 10 000 en fuite. À qui les bons, à qui les doux, pour des frères de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel répare sa bénédiction. Et les multitudes. Il y a des multitudes de chrétiens en ce moment à travers la francophonie qui chantent leur chant de victoire, réclament les grandes, déclarent « Il est sous mes pieds, on a autorité, prennent autorité 7 générations et 8 dominations. » Et lorsque, alors qu'ils le font, sortent de la réunion et continuent à critiquer, murmurer, diviser, il n'y a pas de puissance là-dedans. Il n'y a pas d'autorité là-dedans. L'autorité, elle est lorsque des gens ordinaires, des gens qui se déçoivent, des gens de différents arrière-plans et nationalités, qu'ils soient blancs, qu'ils soient bruns, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient verts, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur arrière-plan dénominationnel, qui disent « On vient ensemble, on soutient les bras les uns des autres, et alors que nous nous soutenons, aucune arme formée contre nous ne prospérera. » Et Jéhovah Nissi va être avec nous. Il va applaudir à Aaron et Hur. C'est une des clés et secrets de la victoire et du Nissi de l'Église Nouvelle Vie depuis 16 ans. Une Église avec 16 ans sans division. Une Église avec des arrière-plans, des théologies tellement différentes. Mais des gens, la majorité, qui savent que si on protège l'unité, nous protégeons l'onction. Qui refusent de murmurer, qui refusent de critiquer inutilement, qui savent qu'on va se décevoir, mais que nous allons pardonner. Les gens qui savent que je suis appelé à quelque chose de plus grand que moi, on se parle avec douceur, on se parle avec respect, on croit le meilleur les uns des autres, on regarde au meilleur, dites amen à n'importe quel moment. Une flamme qui nous garde ensemble. Un de mes modèles dans l'histoire, c'est un pasteur qui s'appelle Charles Spurgeon, c'est un prédicateur exceptionnel qui a touché l'Angleterre et toute l'Europe. Puis il a un livre, on parle de fin du 18e siècle, des années 1800 et début 1900, mais j'ai beaucoup de ses livres. Et il a un livre qui s'appelle « Lectures to my students », qui était comme un livre où ils ont écrit les messages qu'ils donnaient à des jeunes pasteurs qui le formaient, qui était un des classiques pour moi. Et dans ce livre-là, il a un chapitre, quelques pages qu'il appelle mon meilleur counseling, ma meilleure rencontre pastorale, la fois où j'ai eu la meilleure rencontre pastorale. Il raconte l'histoire d'un homme qui était un des hommes qui avait débuté l'Église avec lui, qui était un pionnier dans l'Église avec lui, un pilier, un homme qui avait été impliqué, qui avait un cœur pour Dieu et pour l'Église, mais qui, au fil des années, alors que Dieu a amené un réveil, que l'Église a grandi et que l'Église se multipliait, s'est retrouvé au fil des années avec une blessure et une autre, une déception et une autre. Il a commencé à se sentir négligé, il n'avait pas la proximité qu'il avait auparavant, ne se sentait pas. Et toutes sortes de raisons, et les gens qui l'ont déçu et lui a déçu les autres, a commencé à s'isoler, a commencé à s'éloigner. Et un jour, il a annoncé à tous, c'était extrêmement triste, il a annoncé, moi je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus rien savoir, je suis fatigué d'aimer, fatigué de donner, fatigué de servir. Je veux qu'on me laisse tranquille, je veux que je reste chez nous. Je crois qu'il y a des gens qui sont ici ce matin, que cette parole est pour vous. Que l'ennemi a essayé de vous amener à cet endroit-là. Et cet homme-là était seul chez lui. Dans son isolement, et Spurgeon a décidé, je vais aller le visiter pour lui parler. Et lorsque sa femme a dit au monsieur, le pasteur s'en vient de parler, c'était un orateur hallucinant, Spurgeon, il a écrit des livres, des centaines de livres, des centaines de pages, et le gars s'attendait à avoir tout un sermon du pasteur. Le pasteur s'en vient chez nous, me convainc de revenir à l'église, ça va être toute une soirée. Et lorsqu'il est arrivé, le monsieur l'a fait rentrer par politesse, il a dit, entrez pasteur, puis il dit, asseyez-vous, là, on va s'asseoir confortablement, puis il s'assoit sur le bord d'un feu. un feu de foyer qui était là. Et Spurgeon est à côté de lui. Le monsieur, il se prépare de m'envoyer tout un sermon. On me fait payer la traite par le pasteur. Et Spurgeon ne dit rien. Il le regarde en silence, regarde le feu, regarde le silence. Il dit ça. Et Spurgeon a dit, après ça, c'est ma meilleure consultation. Après un certain temps, il prend les pinces qui sont là, puis il prend une braise. Il prend une braise dans le feu, puis il la sort, il éloigne du feu. Et il regarde le gars qui regarde, il attend, il regarde le pasteur, il regarde la braise, puis il la met à côté. Puis il se met à regarder la braise qui brûle, qui est une lumière. Tu vois la vie, tu vois le feu, tu vois la flamme, tu vois la chaleur. Après quelques instants, seul, isolé, loin, la braise commence à s'éteindre. Puis elle commence à devenir sec, et tout à coup, pss, comme morte. Et Spurgeon, c'est pas un mot, continue à le regarder, regarde la braise, le monsieur le regarde, la braise. Prend la braise, il la remet dans la flamme, et ce qui était mort revient à la vie, puis la flamme commence à brûler. Il passe, et Spurgeon n'a pas encore dit un mot, il met son chapeau, il sort. Puis alors qu'il sort du salon, le monsieur dit, « OK, pasteur, je vais être là à l'église dimanche prochain. » J'aimerais vous dire qu'il y a une flamme qui brûle ici, dans ce lieu. Ce n'est pas une flamme parfaite, ce n'est pas une flamme où tout, chacun d'entre nous est parfait, nous sommes imparfaits, mais c'est une flamme d'amour, une flamme d'encouragement, une flamme d'onction, une flamme de prière. Éloigne-toi pas du brasier, reviens dans le brasier. Ensemble, nous allons accomplir de grandes choses. Quelqu'un devrait dire oui. Il a été, il sera Jéhovah ici lorsque nous dépendons de Dieu dans la prière, lorsque nous découvrons un principe qui change tout. Et je termine avec ceci. Lorsque nous devenons passionnés pour le combat de Dieu. Choisissez-nous des hommes, sort et combat. Il dit, parce qu'une main, diapo 24, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura une guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Des clés, chacune des clés est importante et ce, bien ensemble. Prière, unité. Nous découvrons le principe qui change tout. Nous dépendons de Dieu dans la prière. Mais il faut qu'il y ait de la part de centaines et centaines de personnes qui se pensent en eux-mêmes peu significatifs, mais qui ensemble peuvent être tellement puissants. Il faut que nous devenions passionnés par le combat de Dieu. Que des gens qui ont leur propre combat dans leur vie sont capables de transcender leur propre combat pour épouser la cause de Dieu. Le combat de Dieu, la cause de Dieu, que la prière et l'unité seule, parce que ça, c'était mon dilemme pendant des années de voyage dans la province de Québec, où il y avait des églises que je voyais depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, prier, et même des mouvements d'unité qui se font 10, 20, 30 ans de réunions d'unité et de prière, puis il n'y a jamais d'avance, il n'y a jamais de percée, il n'y a jamais de changement, il n'y a pas de nissi, il n'y a pas de bannière de victoire tangible. La troisième étape, c'est des gens comme vous et moi. C'est arrivé ici, c'est très émouvant. Centaines et centaines de personnes qui disent, avec mes dons, avec mes talents, avec mes finances, avec mes ressources, avec mon cœur, avec mon temps, dans les pouponnières, dans le stationnement, sur un comité, à Action Nouvelle Vie, pour trier la nourriture, pour trier des vêtements, pour servir quelque chose à Noël, pour visiter une maison de personnes âgées, pour aller auprès des centres jeunesse, ou pour servir dans un petit groupe de cette église, comme musicien, comme chanteur, comme technicien, avec les ressources que j'ai. Le combat de Dieu est devenu mon combat, et j'offre ce que j'ai. J'offre mes dons et mes talents à Dieu. Et lorsque ça prend place, les victoires deviennent éternelles. Les personnes qui ont compris, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 4, et le verset 9, il lui dit, « Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. » Écoute-la attentivement. « Oui, nous luttons. Oui, nous combattons. » Qui parle de prière et de combat spirituel. Mais il dit, « Nous luttons, nous combattons et nous travaillons. » On se donne. On se donne. Des gens qui sont touchés par le combat de Dieu. Amalek représente tout le mal qui arrive à des êtres humains. Représente le mal, représente l'injustice, représente la chair, représente le péché, représente ce qui est ténébreux, ce qui détruit les êtres humains. Et Dieu dit, c'est mon combat. Il y a une main qui s'élève contre le royaume de Dieu dans la vie de chaque personne que vous connaissez, et ça devient le combat de l'Éternel. Et le miraculeux prend place lorsque tellement de gens disent, Seigneur, j'ai mes propres combats, mais le combat de l'Éternel est devenu mon combat. Et ça, c'est 16 ans de l'Église Nouvelle Vie. 16 ans de personnes qui ont décidé de faire du combat de Dieu leur combat. Où nous combattons dans l'éducation chrétienne, dans les pouponnières, dans les classes pour les enfants. Et là, et une fois ou deux par année, lorsque nous demandons ici à l'Église aux enfants de nous écrire leur requête de prière, on est bon pour le reste d'année. Parce que les petits garçons et les filles nous écrivent ce qu'ils vivent, d'où ils viennent, ce qui leur est arrivé, ce qui leur fait mal. Et quelle beauté de voir des dizaines d'entre vous qui se lèvent et qui disent « Le combat de Dieu pour restaurer ces enfants-là est devenu mon combat. » Le combat de Dieu pour la jeunesse, lorsque des gens donnent à chaque semaine pour le combat de Dieu contre la pauvreté et l'injustice, à chaque semaine qui est soutenu par des centaines d'entre vous, que vous y alliez comme bénévole ou que vous souteniez par vos offrandes et par votre soutien, par votre temps et par vos prières. Le combat d'Action Nouvelle Vie, le combat de Dieu contre l'injustice, que chaque garçon et fille devrait avoir la même chance, devrait être nourri, devrait aller à l'école, devrait avoir des vêtements, devrait avoir le même départ. Lorsque le combat de Dieu devient mon combat, lorsque dans les bureaux de l'Église, vous avez toute la semaine ces rencontres où on est pasteur et laïque avec des gens ou qui sont là et qui et le combat contre la dépression, le combat contre le suicide, le combat contre la toxicomanie, le combat contre les crises d'angoisse, la panique et le tourment, l'abus dont ils ont été victimes devient mon combat. Dieu dit, je vais mettre une onction. Dieu dit, je vais vous donner des victoires. Lorsque tellement de gens qui se sentent petits en eux-mêmes viennent et me permettent de leur donner une portion de mon cœur. Lorsque le combat contre le racisme, contre les génocides et contre la malnutrition dans des pays comme Haïti, le Congo, à des milliers de kilomètres, deviennent mon combat. Et ces enfants sont comme mes enfants parce qu'ils sont ses enfants. Dieu dit, je vais vous mettre une bannière de bénédiction et vous allez être mon peuple sur la terre. Quelqu'un devrait dire oui. Lorsque nous voulons le connaître, le diapo 26, lorsque nous voulons le connaître plus que comme Jéhovah Jiré, le Seigneur qui pourvoit pour moi, plus que Jéhovah Rapha, le Seigneur qui me guérit, mais je suis prêt à ce qu'il soit Jéhovah Nissi, le Seigneur, ma bannière, son combat devient le mien. Je dirais de cette façon, où je suis prêt à aller plus loin que le mont Morija, où je découvre que Dieu est ma provision, plus loin que Mara et Elim, où Dieu me guérit moi, mais je suis prêt à aller à Réphidim, à l'endroit où Dieu dit, je me cherche un peuple, que mon combat va devenir le leur, et de génération en génération, il y a quelque chose qui est communiqué, le combat de l'Éternel continuera à travers son peuple sur la terre. Et tout de suite après, dans le chapitre suivant, il y a la rencontre de Jéthro. Tout de suite après, je suis le Seigneur, votre bannière, c'est moi qui vais vous donner la victoire. Voici comment. Vous avez Moïse qui est là, du matin au soir, à rencontrer les besoins des gens. Et vous avez son beau-père Jéthro qui arrive et qui lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. » Vous avez des étapes qui sont les étapes de la vie chrétienne de chacun d'entre nous. Il y a une réjouissance. Le verset 8, Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait. Et il y a une reconnaissance. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les autres. Il y a une révérence et un repas. Jéthro offrit un sacrifice à Dieu avec Moïse et les anciens qui vinrent participer au repas dans la présence de Dieu. Les étapes de nos vies qui sont magnifiques, mais tellement de chrétiens se sont arrêtés là. Ils se sont arrêtés au mont Morija. Ils se sont arrêtés au lieu de la guérison. Ils ne veulent pas aller à Réphidim. Ils se sont réjouis dans le Seigneur. Ils ont reconnu qu'il est Dieu. Je suis dans le repas. Nourris-moi, aide-moi, gave-moi, bénis-moi, délivre-moi. Mais à moins qu'un peuple soit prêt à aller à l'étape suivante, où je réponds à l'appel de Dieu et je prends ma place, il ne peut pas être Jéhovah ici, mais l'inverse. Lorsque des centaines de personnes qui ont encore besoin de guérison, qui ont encore besoin d'aide, qui ont encore besoin, qui ont leurs propres difficultés, choisissent, je ne ferai pas seulement partie du problème, je vais faire partie de la solution. Jéthro a dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Les gens viennent à toi toute la journée avec leurs plaintes, leurs douleurs, leurs peines. Tu vas choisir parmi eux, parmi des gens qui ne sont pas parfaitement guéris, tu vas choisir parmi eux des gens qui vont t'aider. Et la sagesse qui va être répandue, la tâche va être répandue. Chacun va prendre sa place avec ses dons et ses talents. Et alors, tu pourras amener à sa destination le peuple à lequel je t'ai appelé. Et plein de gens qui, toute leur vie chrétienne, avaient été jusqu'à ce moment-là, seulement de venir à Moïse pour qu'il les aide, ont dit, tu peux te servir de moi maintenant, parce que maintenant, je veux faire partie de la solution. Je veux m'arrêter un instant avec émotion et saluer ceux qui ont pris leur place depuis ces années, qui ont même laissé toutes sortes de choses pour se donner. Je veux vous encourager, ne lâchez pas, ne vous lassez pas de faire le bien. Mais je lance un appel. Ce matin, que l'Esprit de Dieu me donne onction dans cette dernière minute, je lance un appel à une nouvelle génération de personnes qui, jusqu'à ce matin, vous n'aviez pas encore pris votre place. Nous avons besoin de vous. L'œuvre de Dieu a besoin de vous. Des gens qui vont se lever pour aller dans les pouponnières, pour aller auprès des jeunes, pour aller comme bénévole à Action Nouvelle Vie, comme technicien, dans le stationnement, là-dedans. Différents œuvres pour aller visiter les centres jeunesse et les rénover comme nous faisons, pour aller visiter les maisons pour personnes âgées, pour aller dans la rue auprès des itinérants. J'appelle une génération qui va dire, me voici, je veux prendre ma place afin que tu sois Jéhovah Nissi et que tu lui donnes d'autres victoires et que ceux qui le reçoivent ce matin disent un dernier grand amen et qu'on applaudisse ensemble ce que Dieu va faire. Alors Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Voici ce que tu diras au peuple. » Le peuple répondit d'un même cœur, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Ne manquez pas un dimanche des prochaines semaines et mois, car la vision des prochaines années va être mise devant vous et je crois qu'elle va embraser votre cœur. Il y a des projets qui se réalisent dès maintenant dans les prochaines semaines, d'autres qui sont dans la prochaine année, d'autres qui sont dans les prochains mois et années. Mais ensemble, il y a une vision. Dieu, nous sommes sur la montagne. Et Dieu nous révèle la vision pour la prochaine étape. Mais il appelle un peuple qui, de même cœur, va se lever et va dire, « Oui, nous voulons que le Seigneur soit Jéhovah Nissi. Nous voulons qu'il soit une bannière de victoire extraordinaire dans les prochaines années. Je veux ma part. » Nous allons dépendre de Dieu en prière. Nous allons découvrir ou redécouvrir que c'est dans l'unité, dans la main sur la bouche qui arrête le murmure et les critiques inutiles et les propos qui blessent. Et nous allons découvrir ce principe qui change tout. Et nous allons recevoir le cœur de Dieu pour nous-mêmes et prendre la décision de prendre ma place. Nous allons faire ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et comme il nous a conduits, il va nous conduire. Il va nous conduire dans les œuvres préparées d'avance. Alors qu'il y a un clip qui va apparaître à l'écran quelques instants avec le chant magnifique que Dan a écrit qui dit « Conduis-moi ». Est-ce qu'on peut commencer à le chanter alors qu'il va apparaître à l'écran? Est-ce que vous pouvez commencer à le prier et dire, « Seigneur, comme tu nous as conduits, tu vas maintenant nous conduire. Comme tu as été pour nous conduire, comme tu as été, Jéhovah Nissi, notre bannière de victoire, tu vas l'être encore plus magnifiquement, ensemble, en ta présence. Conduis-moi. »
Centre jeunesse, la générosité en un nom. Nouvelle.
ensemble en sa présence. Est-ce qu'on peut le prier ensemble alors que les musiciens vont nous aider, que Dan va nous conduire? Est-ce qu'on peut lever nos mains et dire, Père, je t'aime. Je viens devant toi humblement et mon cœur veut te louer. Je vous appelle. Je vous appelle tous. Je nous appelle chacun d'entre nous à dépendre de lui en prière. À redécouvrir ce principe d'unité qui change tout. Recevoir le cœur de Dieu à nouveau, afin qu'ensemble nous puissions chacun prendre notre place et que Jéhovah Nissi, qui a été notre bannière et notre victoire, il va nous donner d'encore plus grandes victoires, témoignages, histoires, miracles, à nous couper le souffle dans nos vies personnelles et ensemble dans la mission à laquelle il nous appelle ensemble. J'aimerais entendre une voix, un cœur, une prière monter vers Dieu dans les derniers instants. Cette matinée, ce soir, c'est la fête. Ce soir, c'est la célébration. Ce soir, ça va être magnifique. Mais ce matin, est-ce que nos cœurs peuvent monter vers le Seigneur? Comme un enfant, même tend ses bras vers celui qui l'aime.
Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi. Guide-moi. Je voudrais voir ta face.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.